Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, troisième épisode de News d'octobre 2024. Et on a décidé de l'appeler la Release Candidate. Donc voilà. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde. Et super content de faire cette Release Candidate 3, à savoir qu'elle sera quand même publiée, elle sera sortie, quoi. Donc c'est la RC3. Et je te propose que maintenant, à chaque fois qu'on fait une news 1, 2, 3, ça sera RC1, RC2, RC3. Et ça sera très bien comme ça. Ça te va ou pas?
Peut-être une version bêta avant, peut-être. Non, je sais pas.
Ouais, je sais pas. Non, mais c'est pas mal.
Attends, il faut quand même dire qu'on est à l'épisode 99. Là, vous êtes en train d'écouter l'épisode 99. Donc, on arrive à 100 épisodes.
Exactement. C'est quand même exceptionnel. Et tu sais quoi, petite anecdote, ça me fait super marrer parce que je me rappelle quand on a créé le podcast, en fait, je voulais mettre deux chiffres. Tu vois, donc 01, 02, 03, 04. Ouais. Et je me dis, non, mais vas-y, je mets trois chiffres, quoi. Et maintenant, en fait, les trois chiffres, ils vont bientôt arriver au prochain épisode. Donc, vous écoutez l'épisode 99. Et on peut déjà dire un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le début. Et il y en a. Tous ceux qui sont arrivés sur la courbe de croissance qu'on a connu, et donc ça fait super plaisir que vous soyez là. Petits commentaires, vos sponsoring, tout ça nous ont aidé à arriver jusqu'à l'épisode 100 qui sera bientôt.
Le dernier?
Non, dis pas ça, Patrick, dis pas ça. Dis pas ça, pas le dernier.
Non, on n'arrête pas, on vous rassure, on n'arrête pas.
Allez, épisode news du mois d'octobre. Gros sujet de la conférence Next.js. Quand on est développeur front, on est obligé de passer par... à un moment donné, on parle de Next, on est complètement obligé. Ouais. On va parler aussi de SurILDB, de Turso, de Pieces.js, tout ça.
Medusa.
Et de Medusa qui fait une grosse update aussi. Allez, on attaque tout de suite. On commence par le gros du sujet. La semaine dernière, c'était la Next.js Conf. Donc, c'est le gros événement de... alors, ce n'est pas Vercel pour le coup, mais c'est que sur le framework Next, qui est la surcouche, on va dire le meta-framework au-dessus de React. Qu'est-ce qu'il a été dit, en fait, dans cette conf?
Écoute, conf... alors, Next.js version 15 est sortie quelques jours avant la Next.js Conf. Donc, ils n'ont pas attendu la conf pour le mettre en dispo, donc il est vraiment sorti officiellement juste avant. Faut savoir, petit anniversaire de Next.js aussi, il a 8 ans. Et ouais, le 25 octobre 2016, il a été lancé, la première version, voilà. Donc 8 ans pour un MetaFramework, c'est un petit moment qui dure.
Je vais faire mon relou, mais je crois que Nuxt, donc la même version de côté vue, a aussi 8 ans aujourd'hui, ou pas loin, ou voilà.
Ah ouais,
donc, ouais.
Ok.
Ouais,
ah, c'est marrant. Donc, ok. Ouais, écoute, après, on va revenir sur les nouveautés de Next.js, mais vite fait sur la conf. J'ai regardé, moi, la conf d'ouverture de Guillermo, là, si Delba aussi, quand elle parle. Il y avait aussi Robinson. Donc, voilà, un peu les têtes, les premières têtes d'affiche de Vercel Next.js. Guillermo, déjà, petit changement de vêtements, tout ça. Il est un peu moins, tu vois, il est un peu plus cool sur scène. Donc, ça, c'est sympa. Sa conf était assez intéressante. Il a pris, carrément, il a codé un petit peu en live, tout ça, pour truc. Donc, ça change de d'habitude, tu vois, de ce qu'on avait vu les autres années. En gros, ce qu'il a présenté, c'était les quelques. En fait, il a avoué à demi-mot que effectivement Next.js est devenu trop compliqué depuis qu'ils ont écouté les utilisateurs. Voilà. Là, ils vont aller un peu plus sur la simplicité. Là, voilà, ils ont dit c'est là qui était pas vraiment voulu, etc. En fait, le fait d'avoir multiples options de cache, etc. Ils avouent que voilà, c'est devenu trop complexe. Donc
trop
là,
trop de choix, tu le choix.
Ouais, en quelque sorte. Et puis, tu vois, ils passent leur temps à rabâcher avec des vidéos pour expliquer qui fonctionne, tout ça. Non, à partir du moment où tu commences à devoir expliquer, c'est déjà à la base. Voilà.
Ouais. Ouais. Après, si tu vois, si par exemple, tu fais juste des vidéos moi, je trouve qu'il faut quand même un minimum d'explications pour expliquer comment ça fonctionne. Par contre, quand tu as atteint un niveau de complexité tellement énorme que même les gens ne comprennent pas, ouais, peut-être que là, tu es allé un petit peu plus loin et peut-être que, justement, comme il dit, ils ont écouté la communauté, ils arrivent à trouver un juste milieu, ils sont peut-être allés dans l'extrême complication. Ouais. Peut-être avant, c'était ultra simple et donc ça manquait de fonctionnalité. Peut-être qu'on arrive à une période de maturité où justement c'est un petit peu plus facile et mais toujours efficace et efficient quoi.
Ouais, en fait le truc c'est que Next.js fait tellement de différents modes de rendu, etc., de cache, de gestion de cache, que voilà, pour un petit site ça devient trop compliqué. Après, pour un site plus complexe, c'est forcément utile. Donc ils ont inversé la tendance. Donc déjà de ce côté là on va reparler après. TurboPack aussi, il est revenu sur TurboPack qui est officiellement stable pour le dev. Voilà, donc TurboPack qui met en cache, etc., hyper rapide. Alors ils ont amélioré le call start, il est super amélioré. Ils ont amélioré la compatibilité avec toutes les librairies externes comme voilà qu'on peut avoir en CSS, etc. Donc stable pour le dev, il passe tous les tests, donc c'est officiel, vous pouvez l'utiliser sans problème. Pour la version build, donc pour la version prod, c'est pas encore prêt, c'est bientôt prêt. Il passe pas encore tous les voilà TurboPack. Ça a beaucoup avancé, donc c'est cool. Et après, je vais revenir après sur les nouveautés de Next.js 15. Alors, c'est pas une version. Voilà, on a eu la 14, on a eu alors, la version vraiment officielle. Vous savez, il y avait vraiment du gros changement. C'était la 13. Après, il y a eu la 14, la 15. Il n'y a pas de gros breaking change, tout ça. Donc, c'est pas une version révolutionnaire. Voilà. Mais on s'habitue quand même à l'avoir tous les ans, à peu près en octobre, hein, la nouvelle version de ce qui se fait dans chez Apple, etc. Tu vois. Donc comme je disais, simplicité. Alors, ce qu'ils ont fait, en fait, bah, évidemment, toujours plus stable, plus performant. Évidemment, ils travaillent essentiellement sur la version app et plus sur la version pages, puisqu'il y a une ancienne version. Donc, prise en charge de React 19 et toujours sur 18, React 18 sur la version pages. Voilà, on reste. Ils ont sorti un code mode. Donc, tu lances une CLI avec un code mode pour passer en migration vers la version 15. Donc, si jamais il y a des choses qui ne sont pas compatibles, ça va te le signaler, etc. Donc, c'est cool. C'est ce qui se faisait un peu chez Angular. Donc, c'est pas mal pour les migrations. Il y a un gros changement, c'est au niveau du cache. Voilà, ce que je disais, comme il disait, on va simplifier. Jusqu'à maintenant, en fait, tout ce qui était... tu sais, ils ont un système, un fetch, qu'ils avaient un peu réécrit avec un système de cache, etc. Et en fait, version 14, c'était par défaut, c'était mis en cache. Tu faisais une requête et par inversion complète. Aujourd'hui, tout n'est plus plus rien n'est mis en cache par défaut. Tout devient dynamique. Donc ça, en fait, c'est un gros changement.
Donc c'est à toi de déclarer volontairement ce que tu veux mettre en cache et au lieu d'être en fait la valeur par défaut absolue et on cache tout. Là maintenant, c'est non, ça je veux bien le cacher quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, tu inverses. Avant, si tu mettais rien, c'était en cache. Ce qui était un peu, semble-t-il, problématique pour comprendre, etc., c'était automatiquement mis en cache. Tu avais tout qui était optimisé, en fait, pour avoir un site rapide, performant. Inversion totale, donc on ne met plus en cache, que ce soit les routes, que ce soit les fetch. Donc ça, c'est un gros changement, breaking change, donc qui a par défaut tout en cache et qui veut rester en cache, application, pour mettre des directives. Donc ça, c'est un changement. Il y a aussi un breaking change par rapport aux des choses qui sont passées en asynchrone. Tout ce qui est header, cookie, etc., la lecture. Donc voilà, maintenant, ce sera un await, asynchrone, pour être cohérent avec tout le reste qui était déjà asynchrone. Voilà. Donc, tout passe en asynchrone. Donc ça, c'est vraiment les gros changements principaux de Next.js 15. Et après, voilà, en gros, c'est vraiment le système de cache qui se simplifie. Et nouveauté qui n'est pas encore dispo, qui est expérimentale, c'est une nouvelle directive qui arrive, c'est use cache, que tu mets au début des fichiers. Et qui va donc en fait c'est une directive qui est utilisable dans différents niveaux. Par défaut tu vas le mettre dans ta page, donc tu as use cache en haut, ça va tout mettre en cache. À partir du moment où tu as mis ça en haut du fichier, il va tout mettre en cache, tout le rendu de React, ça, le fetch, etc. Et après tu peux le descendre à différents niveaux. Tu peux le descendre au niveau du component, donc par exemple tu peux mettre un component en cache, donc il n'y a que le component en cache, et tu peux le mettre descendre aussi au niveau du fetch, du get data, tu vois l'exemple.
Donc ça va cacher la data.
Voilà, donc tu peux vraiment, il y a beaucoup de granularité, tu peux descendre à un certain niveau et tout ce qui est sérialisable, en fait, peut être mis en cache. Donc et ça, c'est pas encore dispo, c'est en version Canary, mais ça va arriver dans la 15.02, je crois.
Et question ultra basique, mais comment ça fonctionne? Est-ce que c'est stocké par un Redis ou c'est stocké par ton serveur? C'est stocké où? En fichier? En DB? En mémoire?
Normalement, historiquement, c'est toujours stocké en fichier sur Next.js. Et ils sont en train justement d'améliorer ça. On va pouvoir de plus en plus stocker, etc. C'est déjà disponible, mais ils vont améliorer ça. Robinson a dit sur scène qu'ils allaient encore faire des améliorations là-dessus. Et dernièrement, alors, chose très surprenante, c'est que il y a eu des vidéos pour self-hoster Next.js, qui est assez.
Waouh!
Donc, il explique comment on fait pour self-hoster Next.js, sachant que nous, enfin, moi, je le fais déjà sur des projets depuis bien longtemps, mais voilà, il faut expliquer.
Ouais, tu nous avais dit, en fait, sur un épisode précédent, que c'était un petit peu compliqué de self-hoster Next.js et que toi, tu avais vraiment galéré. Là, en fait, tu as donc Lee Robinson qui nous explique comment faire et c'est devenu beaucoup, beaucoup plus facile.
Moi, j'ai toujours. Enfin, self-hoster Next.js, c'est pas très compliqué de base.
Ok.
Parce qu'il suffit d'avoir un serveur node, tout ça. Ce qui devient compliqué, on s'est cassé les dents dessus, c'est justement ce partage de cache. Parce que quand un conteneur qui gère un Next.js, une instance, qui va faire du cache, qui va mettre en fichier, etc., bah, ce fichier n'est pas partagé avec un autre conteneur. Donc, quand tu utilises plusieurs conteneurs pour une application, en fait, le cache n'est pas partagé. Donc, c'est là où tu vas commencer à partager soit les fichiers, ou soit sur du Redis, sur un serveur Redis, tu vas mettre ton cache, et donc, ça sera partagé entre les différents conteneurs. Et c'est là où ça ne le gérait pas très bien. Et donc, là, petit à petit, ça va le gérer de mieux en mieux. Moi, je n'ai pas réussi à le faire. En fait, sur la version Pages, on a fait du Redis pour faire du cache, et ça fonctionnait dans l'ensemble. Mais de temps en temps, ça plantait complètement et donc on n'a pas pu le garder pour l'instant.
Okay.
On va voir si ça s'améliore. Mais voilà, cette gestion de cache, c'est là où ça devient problématique pour le self-hosting.
Après, ce qui est cool, c'est s'ils font encore de l'incrémental qui en fait était un peu le truc un peu intelligent, c'est on cache de manière intelligente. Sauf que ce que je comprenais, enfin moi ce que j'ai compris, c'est que tu étais quand même un petit peu obligé de rester sur Vercel parce que Vercel gérait très très bien ça. Sauf que si tu n'étais pas sur Vercel, bah, tu perdais cette fonctionnalité-là.
Et donc, tu l'as.
Ouais, sauf que bah, quand tu viens de dire que c'était compliqué à gérer, à mettre en place, et donc maintenant, en fait, ils ont simplifié ça pour garder cette fonctionnalité d'incrémental, mais sur ton propre serveur, quoi.
Ouais. Bah, à partir du moment où tu n'as qu'un seul serveur, un seul conteneur, voilà, une seule instance, ça marche très bien. C'est là où c'est après quand tu as un montant en charge que tu veux multiplier les instances, mais là ça devient compliqué. Mais ce système de cache incrémental, de auto-revalidate et tout ça, c'est toujours dispo. Même avec la nouvelle directive Use Cache, là, ça sera toujours disponible. Tu peux mettre un timeline, tout ça. Donc il y a vraiment. Voilà, tout est toujours dispo. C'est la force aussi de Next.js, cette façon de pouvoir gérer mentalement et tout ça.
Nice.
Voilà. Donc c'est toujours. Next.js, toujours pas mal à utiliser.
Et tu l'as annoncé tout à l'heure, il y a React en fait, a évolué et Next en fait, vient s'appuyer sur React. React passe en mode compiler, on l'avait déjà annoncé. Là maintenant, ils font encore un pas supplémentaire où justement, eux, ils passent en bêta release sur le React compiler.
Ouais, le compiler, il est officiellement, depuis le 21 octobre, il est en bêta. Voilà, ça fait un petit moment qu'il est annoncé, tu pouvais le tester depuis mai, je crois, un truc comme ça. Mais là, c'est officiellement en bêta, donc on approche d'une sortie imminente, et on peut le tester, l'implémenter. Donc il y a plein de... Alors c'est toujours c'est un plugin Babel, pour ajouter.
Ah ouais, voilà. Ça fait un peu, ça fait un peu retour en arrière, ça, non ?
C'est un peu étonnant, mais bon, c'est logique puisque Babel il va compiler, refactoriser le JS et c'est ce que fait le compiler. En fait, le compiler, alors pour rappel, il va faire en sorte de la mémoisation, c'est-à-dire des éléments qui n'ont pas besoin d'être recomputés, enfin recalculés, bah, il va les mettre à part, voilà, des pièces de ton application, il va les mettre pas qu'elles soient recalculées à chaque rendu, en fait. Donc il optimise en fait tous ces éléments qui ne doivent pas être rendus. Voilà, donc c'est toute une optimisation. Apparemment, c'est assez bluffant. J'ai vu quelques vidéos. Il y a vraiment une différence entre une application compilée et une application non compilée. Donc voilà, on peut le tester. Il y a toutes les installs. Voilà, il y a des exemples, tout ça, avec Vite, avec Webpack, avec Next.js. Donc on peut le tester dès aujourd'hui, sans problème.
Cool. Et eh ben, on va regarder. On va regarder ça. Point aussi sur l'évolution qui passe en version 2 sur Medusa. Medusa, on peut dire que c'est... est-ce qu'on pourrait dire que c'est le framework open source qui voudrait concurrencer Shopify ? Qu'on peut le présenter un peu comme ça.
Je crois que c'est comme ça qu'ils se vendaient à l'époque, non ? C'était okay. le Shopify open source, un truc comme ça, je ne sais plus.
Ouais.
On avait reçu Adrien...
qui est une belle histoire, qui bossait en fait sur de l'open source pour Medusa, et à la fin il s'est fait embaucher par la boîte. Donc, c'est top.
Donc, c'est cool. Assez compétent, j'ai Adrien, et puis ouais, il est toujours dans la boîte, donc ils font un beau boulot. Grosse migration des premières versions de Medusa, et donc la version 2 vient de sortir qui est. J'ai l'impression qu'ils ont tout refait, en fait, en gros.
L'impression.
Donc, assez bluffant quand on regarde les nouveautés. Alors, les nouveautés. Et tu peux aller, je crois, sur le lien...
Announcing.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, les nouveautés, déjà, il y a une nouvelle... Alors, tu peux avoir une admin que tu installes. Voilà, nouvelle interface, etc.
Ils ont découplé l'admin du store. C'est bien, ça, c'est top.
Ouais, alors eux, ils sont très React et Next.js. Alors, c'est possible que ça soit fait avec Next.js ou quelque chose comme ça. Je me souviens qu'à l'époque, c'était fait avec du Gatsby, nous avait dit Adrien, ce qui est assez fou, en fait. Mais je ne sais pas pourquoi ils avaient fait ça.
Mais peut-être qu'ils ont migré maintenant.
Voilà, ils ont tout migré. Et voilà, nouvelle interface admin, tout ça, que tu peux utiliser, qui est open source. Hein, donc, c'est déjà, tu as une admin vraiment sympa d'office. Quoi. Donc, ça, c'est cool. Et c'est séparé, hein, tu as la version... Alors, j'ai jamais utilisé Medusa, mais je sais qu'il y a. Alors, t'as Medusa.js qui est la version. T'as tout le back-end, quoi, où tu vas faire des appels, voilà, API, machin, tout ça. Et après, t'as la version. T'as l'admin qui va se connecter à ça. Donc, t'as les deux choses qui sont différentes. Au niveau des features e-commerce, donc, ils ont rajouté plein de trucs. Il y a le retrait en magasin natif, là, le pick in-store, là, pick-up. Wow. Les variantes de produits qui ont été améliorées avec tout un système d'inventaire, machin. Tu peux voilà, faire plein de variantes d'inventaire. Un nouveau système d'authentification où tu peux mettre Google, Facebook, tout ce que tu veux, les providers.
Tous les OAuth,
ça, c'est cool. Ouais, code promo avec beaucoup de granularité, avec des conditions, tout ça. Voilà, ça c'est voilà, c'est des trucs qui sont d'office natifs. Voilà. T'as des vrais trucs efficaces. Yep. Et la grosse nouveauté, c'est surtout que tout est entièrement découpé. Donc chaque brique de Medusa est un module à part entière, indépendant et que tu peux remplacer par ton propre module. C'est-à-dire que donc, ils ont 17 modules de base. Donc, tu as tout ce qui est carte, customer, paiement, product, etc. Donc, tu vois, tous les paniers, tout ça, c'est vraiment chaque truc, c'est un module qu'ils gèrent. Et si, par exemple, toi, le système de panier ne te plaît pas et que tu veux en développer un, bah, tu peux en développer un et mettre le tien là.
Ouah, top.
Hyper flexible, etc. Donc, voilà. Le truc a l'air vraiment, sur le papier, là, ça a l'air top. Voilà. Et tout ça, open source.
Bouah.
Voilà.
Bouah. Ouais, top, top. Pour le coup, je bosse sur un e-commerce depuis un an et j'avais regardé Medusa et en fait, il y avait des options qui passaient pas, en tout cas des fonctionnalités que je devais avoir qu'ils n'avaient pas. Et là, je crois qu'ils ont résolu tous les problèmes, quoi. Ils ont résolu tous les problèmes.
Ah, ouais.
C'est vraiment propre. Ouais, vraiment.
Non, le truc a l'air robuste. Je sais que c'est tout écrit en TypeScript, tout ça. Enfin, voilà, c'est...
Pricing, self-hosted, c'est free.
Bah, free, hein, évidemment.
Et après, en fait, il y a une version cloud pour gagner de l'argent. Et ils utilisent pour self, enfin ouais, pour une version cloud où c'est eux qui gèrent le tout ouais. impressionnant.
Ouais, là on a vraiment un acteur qui va être très sérieux pour tout ce qui est e-commerce. On parle de, comment ils appellent ça, la composabilité, c'est le truc marketing à la mode dans le e-commerce. Là on est totalement, c'est entièrement composable. Voilà.
Trop bien.
Le truc est vraiment...
Ouais, tu veux changer ta brique recherche, tu veux mettre tag, tu veux changer ta brique carte, panier et tout. Ouais, stop.
Ouais, puis par exemple, les promotions, tu t'en fous, par exemple, bah, tu ne mets pas le module promotion. En fait, tu mets ce que tu veux. Bah, tu peux faire un tout petit système d'e-commerce avec juste les produits, paiements, le panier, etc. Et puis, en fait, c'est ça, en fait, tu peux... Ouais, je vais essayer de tester un petit peu le truc, ça a l'air intéressant.
Ouais, top. Vraiment, vraiment super, super joli. Allez, on passe sur autre chose, PCs.js. Et alors eux, c'est pour construire des composants natifs, mais super légers, avec un framework, mais c'est leur framework à eux, ou en fait ils s'appuient, c'est quoi exactement le truc ?
C'est un framework très light au-dessus des Web Components.
Ok.
Simplement. Donc Web Component, je rappelle, c'est un système qui est natif à JavaScript. On n'a pas besoin de rajouter quelque chose. Mais évidemment, il manque toujours des choses par rapport à des frameworks qu'on peut utiliser autres. Donc il y a un petit framework qui se met par-dessus. Voilà, il est il te permet, donc il utilise vite tout ça. Il te permet de faire des Web Components et de les utiliser sur un site. L'avantage, c'est qu'il va charger. En fait, il va importer uniquement ce qui est nécessaire pour ton. Par exemple, donc il donne l'exemple le plus bas du header. Et ben, il va charger que le script de JavaScript du header avec le CSS du header et rien d'autre en fait. Ça permet de faire des web components indépendants qui s'autogèrent avec ce qu'ils ont besoin. Donc ça a l'air super intéressant.
Donc l'idée, c'est d'être le plus light possible et d'être le plus natif JS pour éviter de mettre trop de librairies, du Vue, du React, de Angular, tout ça. On fait tout en web composant natif. Néanmoins, on a une sorte de meta framework pour orchestrer un petit peu ces composants et pour gagner en vitesse de développement et en rendu, quoi.
Voilà, il donne quelques exemples où il l'a intégré sur un Astro, sur je sais plus quoi, un WordPress, sur un Eleventy. Voilà. Je sais pas si le gars est français, j'ai pas regardé, j'ai pas confondu, parce que je vois qu'il a fait des choses pour des gars. Mais peut-être belge. Ah oui, il y a un .be, donc peut-être belge, ouais. Magicstrip.be.
Okay. Nice.
Donc ouais, ce serait possible parce que Decathlon en plus ils sont dans le nord, donc ouais, c'est possiblement. Ouais. Donc voilà, intéressant et ouais, moi je trouve ça cool quoi d'avoir, tu vois, de pouvoir faire des components où tu vas intégrer dans ton Astro un C-header et derrière tout est automatiquement injecté.
Ouais, mais surtout, c'est pour éviter de mettre des surcouches, de surcouches, de surcouches, de surcouches, et qui, au final, ne fait que rajouter de la complexité, quoi. Tu vois, là, on revient sur des choses un petit peu plus natifs et pas pures, mais en tout cas, minimiser au maximum
et puis surtout, en partant sur du natif comme ça, souvent, dans le temps, ça ne change pas, quoi. C'est natif, donc tu n'as pas besoin de mise à jour de React ou quoi que ce soit.
Nice. Autre nouvelle, alors je ne sais pas si vous utilisez Chrome au quotidien, si vous utilisez Arc, mais Arc est le navigateur, on va dire, un peu trendy sur l'année 2024. Beaucoup de gens ont fait la migration. Et là, en fait, on a la boîte qui annonce un nouveau projet. Ils ont déjà Arc, mais ils vont faire autre chose.
C'est Josh Miller qui annonce ça en disant que Arc il fonctionne bien, que tout le monde est content, qu'on a fait plein d'implémentations. Je rappelle, la plupart des implémentations, c'est souvent les utilisateurs qui les demandent, donc ils regardent s'ils peuvent les implémenter et puis ils le font, etc. Donc, ils ont rajouté l'IA, enfin, tout ce qu'on... Voilà, c'est un navigateur qui va très loin. Moi, je trouve personnellement qu'il est, c'est un peu trop, il est devenu un peu trop complexe à mon goût. Je trouve qu'au début, il était simple avec l'IA, machin, tout ça. Bref, ça, c'est mon avis perso. Et en gros, il fonctionne tellement bien que les gens sont contents et ils voudraient malgré tout continuer parce qu'ils ont envie de faire des expérimentations, ils ont envie d'implémenter plein de nouvelles choses, etc. Mais sauf que, ils peuvent pas parce que tout le monde est content et tout le monde veut garder Arc comme il est actuellement. Et en fait, ils ont choisi tout simplement de faire un deuxième navigateur, voilà, où ils vont pouvoir s'exprimer librement sans déranger les gens qui sont contents de Arc. Voilà, en gros.
Donc, ils font un deuxième navigateur et ils repartent sur Chrome ou ils repartent sur le moteur, c'est le même moteur ou ils
ils n'ont pas trop annoncé encore, il n'y a même pas donné le nom, donc oui, mais je pense que c'est bien possible. Ça m'étonnerait ils vont certainement partir sur la même base que Arc, ça évitera de refaire tout de zéro, mais après, ils ne communiquent pas sur le nom et ce qu'il va faire, tout ça, mais c'est juste...
Petit effet d'annonce, quoi.
Ouais, effet d'annonce, ouais. C'était pas mal.
Ok.
Donc, comme quoi, le navigateur, il y a encore de... pas mal de choses à faire.
C'est encore un marché. C'est un marché, quoi. C'est clair. pour ceux... Alors, on ne va pas rentrer dans la polémique si vous êtes plutôt IntelliJ ou VS Code ou Cursor, NeoVim ou Vim ou tout ça. Par contre, il y a JetBrain qui a quand même sorti une petite carte de sa poche en annonçant WebStorm, donc qui est la suite, on va dire, pour développer... du JS en free for non-commercial use. En clair, voilà. C'est gratos si tu ne l'utilises pas pour du business, quoi. C'est ça ?
Si tu dis que tu ne l'utilises pas pour du business. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre.
Ouais, ouais. Mais est-ce qu'ils sont pas un petit... est-ce qu'ils n'ont pas un peu le couteau sous la gorge pour devant tous les navigateurs qui deviennent quasiment gratos ou augmentés avec des features type IA, je pense à Cursor. Est-ce qu'ils ne sont pas obligés de lâcher un peu pour garder des utilisateurs ? Je sais pas.
Après, WebStorm, JetBrain, c'est assez gros. Hein, ils ont, c'est une grosse boîte. Mais c'est potentiellement ce qui les pousse un peu à rendre cet éditeur gratuit, notamment pour les étudiants, tout ça. Toi qui donnes des cours, tout ça, évidemment, ils donnent des coupons, des choses comme ça pour avoir une remise ou un éditeur gratuit. Mais c'est quand même plus simple si l'étudiant peut aller directement télécharger et installer. Donc plus avec Cursor qui est arrivé, qui quand même Cursor, il prend de plus en plus de place, même par rapport à VS Code. Hein. Et donc c'est clair qu'ils ont dû sentir le vent un petit peu tourner. Alors WebStorm, il est spécialisé dans le front, hein, c'est JS, CSS, tout ça. Il prend pas en compte PHP, tout ça normalement. Donc c'est pas PHP, hein, c'est un petit peu différent quand même, quand même plus avoir PHP que WebStorm, mais qu'il soit free, c'est vraiment cool pour il suffit de déclarer si vous faites du commercial ou pas, donc mais c'est un bon produit.
Top. Mais c'est tu vois, je sais pas si c'est un coup de grâce, tu vois, ou est-ce qu'ils sentent le vent tourner et il faut qu'ils réagissent, ou après, ils ont les reins solides. Mais bon, dans une vision à long terme ou à moyen terme, ils doivent quand même sentir le vent un petit peu tourner, quoi. Donc, ils se doivent de réagir, je pense. Enfin, je ne sais pas, c'est mon interprétation.
Ouais, de toute façon, après, il faut, en tant que dev, souvent, on prend des, enfin, comme tout le monde, hein, on est gouverné par les habitudes. Si tu commences à coder avec un éditeur, comment t'as habitué à cet éditeur, tout ça, après, c'est vrai que t'auras plus de mal à changer. Donc, peut-être aussi, c'est une stratégie pour, mettre le pied dedans et puis que les gens s'habituent. Parce que c'est un bon produit, hein, c'est un super bon produit. Ils font des bons éditeurs qui sont light, qui font pas monter le CPU, etc. Et ils sont basés sur Java, je crois, Kotlin. Enfin, voilà, c'est d'ailleurs Kotlin, c'est eux qui l'ont plus ou moins inventé.
Ils ont poussé le truc, ouais.
Ouais, si je dis pas de conneries. Donc c'est des bons éditeurs. Donc Ah, puis ils avaient même sorti leur IA disponible aussi. Donc voilà, je pense que c'est une stratégie clairement.
Un peu obligatoire. Yes. Retour sur la semaine dernière, la semaine du 21 au 25 octobre. Donc c'était Halloween, ok.
Attends, le petit
mais, de quoi ?
Le petit fantôme, j'adore, la souris.
Et exactement. ils ont annoncé Turso, donc en fait, qui est une boîte qui fait du hosting de libSQL, qui est ni plus ni moins un fork de SQLite. Par contre, le gros avantage, c'est qu'eux, ils le font tourner sur le Edge, donc au plus proche de l'utilisateur, partout, pour des prix dérisoires, avec des performances de maboule. Très intéressant. Et ils ont sorti, c'est un peu dans l'air du temps maintenant, ils font une semaine de lancement. Au lieu de faire une journée avec plein de lancements, ils étalent ça sur une semaine et ils font un peu monter la sauce. Voilà, bon, ça fait partie... une fois de plus, des stratégies commerciales. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de ça ? Évidemment, le stockage des informations issues de l'IA est devenu quasiment obligatoire. Donc, en fait, Turso, en fait, est venu de manière native, en fait, avoir la capacité de stocker ces informations qu'on appelle des vecteurs. Voilà, on en a déjà parlé, mais en tout cas, tu peux stocker facilement toutes tes informations et tu peux faire du search aussi là-dessus. Ils ont aussi annoncé où, en fait, tu peux faire tourner un modèle en local, en fait.
Ah ouais.
Et ouais, parce que toute leur stratégie, et c'est ce qu'ils ont annoncé aussi sur le dernier jour, en fait, où tu vas utiliser un réplica. En fait, SQLite, souvent, c'est un fichier, quoi. Donc, tu vas pouvoir le mettre sur ton téléphone ou sur ton site internet, mais côté client, par exemple, et tu vas pouvoir, en fait, stocker des informations en local. Et là, en fait, ils ont annoncé que maintenant, tu vas pouvoir aussi écrire et il va y avoir des stratégies de synchronisation qui vont se mettre en place. Et donc, il y a une sorte de fusion entre du local et du distant qui est plutôt intéressante, avec justement des stratégies de synchronisation que tu pourras choisir. Et ça recoupe aussi avec ce qu'ils ont annoncé sur le deuxième jour, où en fait, ils ont fait un SDK pour justement tout ce qui est mobile, donc iOS, Android, React Native.
Wow.
En plus de PHP, Ruby et C. Alors, il y en avait déjà plein d'autres de SDK qui étaient déjà dispo, mais ils ont rajouté tout ça pour orienter vraiment sur du mobile, parce que SQLite en mobile, c'est juste super intéressant. Et avec la synchronisation entrée-sortie, ça va être d'autant plus intéressant et d'autant plus puissant. Autre annonce aussi, tu peux aussi déployer sur AWS et ils mettent en avant qu'il n'y a pas de cold start. Donc, on sait que quand on fait du serverless, on peut avoir un cold start. Là, en fait, leur techno tourne tellement qu'il n'y a pas de cold start. Donc, c'est instantané avec des perfs de Maboule. Et jeudi, ils ont annoncé un truc qui moi, m'a fait marrer et je trouve ça super intéressant. Ouais. Est-ce que tu connais le concept de Vegas Blackout?
Non, du tout. C'est quoi?
En fait, c'est la phrase où tu dis que tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. D'accord. Donc, en fait, tu as une sorte d'amnésie. Voilà. Et en fait, ils ont annoncé ça en disant que c'est plutôt super sympa parce que, en fait, il y a une journée en fait, dans le mois où tu peux choisir et tu auras un usage gratos. En clair, tu dis ouais, mais à quoi ça sert? Ben, en fait, si par exemple, pour X raison, tu te fais hacker, et on a vu en fait les expériences des utilisateurs qui avaient des factures à 1000 ou 2000 balles en 2 jours, 3 jours, même pas en 2 heures, ils avaient ça. Et ben ça peut arriver. Donc toi tu réagis, sauf que tu te dois de t'acquitter de la facture, tu vois, les 10 ou 15 000 balles. Ouais. Et ben là, en fait, a posteriori, tu pourras choisir une journée dans le mois et tu dis ça c'est gratos. Et donc, ils t'offrent en fait une journée par mois et c'est toi qui choisis la journée, quoi. Donc, pallier en fait au fait si un jour, pour X raison, tu as eu un accident et tu as une journée où tu as explosé, et ben là, tu le passes dans ton Vegas Blackout et hop, c'est oublié.
Ok, excellent.
Je trouve ça super sympa.
Ouais, où tu fais une newsletter, tout ça, où tu as un pic de visite ou quoi.
Exactement. Et ça t'évite en fait après je pense l'objectif c'est plutôt d'éviter les accidents de facture un peu trop élevés, quoi, tu vois, où t'as un mec qui te spamme ton site et du coup ça explose tes records ou des choses comme ça. Donc tu profites du serverless avec un espèce de garde-fou un petit peu pour éviter de te faire déglinguer la tête sur la facture, quoi. Donc, ça peut être intéressant. Donc, toujours est-il que, tu vois, sur Turso, en fait, SQLite devient de plus en plus puissant, de plus en plus de fonctionnalités. Et je pense que c'est vraiment une DB qui est sous-estimée, mais vraiment. J'en suis intimement convaincu, quoi.
Ça a l'air super intéressant de faire du vector. En local, tu peux faire du vector storage.
Ouais. Ouais.
Et tu te dis qu'une IA, tu peux faire tourner en local.
En fait, c'est ouais, tu pourras. Alors, on mettra le lien en fait de la de l'article dans les notes. Mais en fait, ouais, il explique en fait qu'ils se mettent en fait avec un truc qui s'appelle Kin et en fait qui te permet en fait d'avoir un assistant IA personnalisé au sein de et donc tu vas pouvoir injecter des données via des search, donc des embeddings, et tu vas pouvoir utiliser ton assistant qui va aller taper dans cette base de données pour aller récupérer des informations qui sont propres, quoi. Et donc ça, c'est monstre puissant, intéressant,
carrément.
Carrément intéressant.
Ok.
Et toujours dans la formation, on sait que dans l'univers des DB évolue, sauf qu'il y a un nouvel acteur qu'on a déjà parlé qui s'appelle CyrilDB qui s'annonce un petit peu comme la DB ultime. Néanmoins, elle fait tellement de choses que parfois on peut être un petit peu perturbé de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire ou comment on fait. Et tout simplement, ils ont sorti leur université. Donc, c'est une sorte de page dédiée avec beaucoup de vidéos, beaucoup de tutos où ils expliquent justement comment c'est fait, comment ça fonctionne, pourquoi ils ont fait comme ça et surtout comment l'implémenter. Donc, très intéressant.
Pas mal.
Pour tester. Et en plus, de toute façon, c'est un peu on va dire l'état général dans CyrilDB. La direction artistique est quand même super polie, c'est super joli, c'est bien fait. Et donc, toutes ces vidéos sont dans le même délire. Très très propre, on voit les queries, comment ça marche, comment c'est fait et tout, c'est très 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 bien fait et ça nous explique vraiment tout le fonctionnement. Donc si vous êtes curieux en tout cas de passer sur CyrilDB ou en tout cas de vouloir tester, c'est un super moyen de pouvoir le faire.
Ouais, ça a l'air pas mal, c'est bien. Intéressant tout ça.
Nice. Ben oui, nickel. Patrick, on en reste là pour cet épisode 99. Et,
99, ouais.
Ouais, c'est Allez, on dit, on vous remercie d'être resté jusque-là,
jusqu'au bout
de l'épisode. Pensez à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait super plaisir.
Commentaire.
Partagez l'épisode, évidemment. Un grand merci aux sponsors et on vous dit à bientôt pour l'épisode 100.
Ouais, ciao.
Ciao, ciao.